Dis-moi, t'aimerais faire quoi quand tu seras plus grande ? Moi, quand je serai grande, je serai... Et toi ? Quand je serai grande, un podcast RLP par Hélène Grillon. Bonjour les amis, c'est Hélène Grillon. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison du podcast « Quand je serai grande » sur RLP. Et je me suis dit que pour bien commencer la rentrée, je vais vous emmener en voyage, mais pas n'importe quel type de voyage. Nous partons aujourd'hui pour les glaciers extrêmes de l'Arctique. Imaginez cette situation. Vous êtes seul, coupé du monde, sans plus aucune provision et rongé par la fatigue. Vous avez faim, froid et aucun moyen d'aller chercher de l'aide. On dirait le début d'un film apocalyptique, et pourtant, c'est ce qui est arrivé à notre héroïne du jour au début des années 1920. À seulement 23 ans, la jeune Inuit dont je vais vous parler s'est retrouvée embarquée dans une expédition mystérieuse avec 4 hommes au large du Grand Nord sur une île déserte. Au bout de 2 ans, elle sera la seule survivante de l'équipage à retrouver sa terre natale. Envie de savoir comment elle a réussi à braver les conditions extrêmes de l'Arctique et raconter son périple ? Alors sans plus attendre, je vous propose de partir à la rencontre de cette incroyable femme dont la résilience et la force l'ont valu le surnom de Robinson Crusoe et féminine, j'ai nommé Ada Blackjack. L'histoire débute dans la ville de Nome, dans laquelle Ada habite depuis qu'elle a 8 ans. Née en 1898, elle a grandi au sein de la communauté Inupia, un peuple de chasseurs-pêcheurs, au-delà du cercle arctique. Mais ce n'est pas pour autant qu'Ada a appris à chasser et à se débrouiller seule dans des conditions extrêmes. Et par-dessus tout, elle ne peut pas croiser la route d'un ours polaire, sous peine d'être prise d'une crise de panique. Son éducation s'est alors plutôt dirigée vers les langues, l'étude de la Bible, et comme toutes les femmes de l'époque, la tenue d'un foyer. Mais aujourd'hui à Nome, depuis qu'elle a été abandonnée par son mari et laissée sans argent, Ada a dû se résoudre à placer son fils Bennett, atteint de la tuberculose, dans un orphelinat tout proche. Elle sait que pour le sortir de là, elle doit à tout prix trouver de l'argent. À Nome, les habitants sont un peu agités depuis que 4 explorateurs sont arrivés. On raconte qu'un certain Vilmur Stefansson prépare une expédition massive pour les sommets enneigés de l'Arctique. On dit de cet aventurier canadien qu'il a navigué partout dans le monde pour plusieurs grandes expéditions sur des îles perdues. Mais ce que les locaux savent moins, c'est que Stefansson est aussi connu pour être un beau parleur. Sa dernière théorie en date repose sur l'idée que tout ce qui a été dit au sujet de l'Arctique est faux. Il est convaincu que l'Arctique, c'est une terre abondante qui accueillera un jour tous les espoirs de l'humanité. Sa nouvelle expédition permettra alors de prouver au reste du monde qu'il a bien raison. Pourtant, ce type de propos est assez surprenant quand on sait qu'en 1913, l'une de ses missions a viré à la catastrophe. Son navire pris dans les glaces du Grand Nord, l'explorateur avait abandonné le reste de ses hommes pour traverser la banquise à pied jusqu'à l'Alaska. Dans cette tragédie, la moitié de son équipage avait alors trouvé la mort. Mais à son retour, Stefansson n'avait pas manqué de minimiser les risques pris par ses compagnons pour servir son commerce. Son image était restée intacte. Le monde n'avait certainement pas fini d'entendre parler de lui. Ici, à Nome, il avait réussi à rassembler les foules autour de cette nouvelle expédition. D'ailleurs, il n'avait eu aucun mal à recruter 4 jeunes volontaires. Fervents admirateurs de Stefansson, ils étaient tous prêts à aller là où il les enverrait. Car oui, le célèbre explorateur n'avait pas prévu de les accompagner dans cette entreprise. Il s'occupait certes de la logistique, mais préférait laisser le cœur de l'exploration à la jeunesse. dans la ville. Les gens racontent que pour cette expédition, les explorateurs sont prêts à payer $50 par mois les volontaires locaux qui accepteront de les rejoindre. Jamais Ada n'a gagné autant d'argent. Elle est bonne couturière et elle se débrouille assez bien en anglais. Mais elle sait que c'est la seule opportunité qui se présente pour elle d'offrir une vie meilleure à son fils et de le soigner dans un bon hôpital. Pendant au moins un an, elle est consciente qu'elle devra vivre loin de son fils, mais cette pensée la terrifie. En plus, elle ne sait pas comment survivre dans des conditions aussi extrêmes. Elle vit certes en Alaska, mais l'Arctique est connu pour être un endroit impitoyable. Alors elle n'a que cette idée en tête. Se battre pour sa survie, et surtout celle de son fils. C'est ainsi qu'elle est embauchée par un certain Alan Crawford. Le salaire promis représente à ses yeux une chance incroyable, mais lorsqu'elle embarque à bord du Silver Wave, Ada est prise de doute. Elle découvre qu'elle est la seule Inuit et la seule femme à faire le voyage avec ses quatre hommes inexpérimentés. Ils avaient pourtant promis que d'autres familles étaient intéressées. Elle pose alors la condition suivante, elle les accompagnera uniquement si d'autres locaux prennent part à l'expédition. Ils acceptent, mais cela se fera en chemin. Pas question de retarder d'un jour le départ. Ada pèse le pour et le contre et rejoint l'aventure le 9 septembre 1921 avec Alan Crawford, Lorne Knight, Fred Maurer et Milton Gale. Comme prévu, le bateau s'arrête le lendemain à l'est de la Sibérie, au Cap Dejnev. Ici, les explorateurs ne parviennent malheureusement pas à recruter de locaux. Ada aimerait rentrer, mais il est trop tard. Le voyage jusqu'à l'île se déroule alors sans trop d'accrocs, même si quelques bourrasques de vent ont rendu l'accès difficile. À l'arrivée, les membres d'équipage déchargent toutes leurs provisions, leur matériel, leurs 7 chiens de traîneau et un petit chaton nommé Vic. Premier coup au moral. Ils découvrent que l'île Wrangel est bien plus vaste et surtout bien plus stérile qu'ils ne l'avaient suspecté. Mais ils sont là pour remplir leur mission. Alors sans tarder, les quatre hommes hissent un drapeau britannique sur l'île. Au loin, le capitaine Hammer qui les a amenés jusqu'ici, un Américain arrivé dans l'aventure un peu par hasard, ne cautionne pas du tout cet acte et n'a pas envie d'en être complice. En ramenant le bateau en Alaska, il se dit qu'il ne peut pas laisser passer ça. Ce n'était pas non plus ce qui était prévu. Il répand donc la nouvelle à son retour de Sibérie. La presse s'empare du sujet et la confusion est générale. Stephenson n'avait donc qu'une seule idée en tête, fonder une colonie au nom de la couronne britannique. Lorsque la nouvelle parvient aux oreilles des concernés, personne n'est au courant au Royaume-Uni. Qu'espérait le célèbre aventurier avec cette mission ? Mettre la royauté devant le fait accompli ? En réalité, Stephenson aimerait surtout récolter les honneurs et s'enrichir à titre personnel avec les trouvailles de l'île Wrangel. Mais dans tout ça, a-t-il conscience des risques qu'ont pris sans le savoir ses membres d'équipage ? Sur cette île déserte, pas d'arbres, pas d'habitants, mais des paysages austères et du gravier noir. Ada est complètement déboussolée. Elle pleure beaucoup. Son fils lui manque. Alors elle noie son désespoir intérieur dans toutes les missions qu'on lui confie. Elle fait la cuisine, rapièce des vêtements, tandis que les quatre hommes partent en exploration pour en découvrir plus sur cette terre. Pour le moment, le gibier ne manque pas, ce qui ravive le moral des troupes, du moins celui des hommes, car Ada ne ressent pas du tout la même joie. Entre autres, elle déteste les armes à feu et refuse d'apprendre à s'en servir. Plus l'expédition suit son cours, moins elle se sent à l'aise. L'hiver approche bientôt et la banquise commence déjà à se former. Ada n'en peut plus de travailler dans ces conditions et se retrouve dans une détresse sans précédent. Elle fond de plus en plus souvent en larmes. Ses quatre compagnons de route, tous plus ou moins rustres, ne lui font pas non plus de cadeaux. Elle tente alors à plusieurs reprises de s'enfuir du camp, mais en vain. Chaque fois que le groupe part à sa recherche, la neige trahit ses pas. Ada les supplie alors à genoux de la laisser mourir. Mais ils n'ont que faire. À plusieurs reprises, ils l'attachent au mât du drapeau pendant des heures. Comme pour la punir, ils la privent même de repas pour l'obliger à retravailler. Ada hurle désespérément dans le froid, des prières que personne ne veut entendre. Entre la détérioration de ses relations avec les explorateurs et la nuit polaire qui s'installe, Ada se sent prise au piège. À partir de maintenant, Wrangel est plongé 2 mois dans l'obscurité. Les températures dégringolent en dessous des moins 40 degrés. Pourtant, l'équipage ne se laisse pas abattre. Et Ada reprend alors son travail de couture. Elle ajoute au parka des capuches pour protéger les têtes des assauts du blizzard. La jeune femme a le mal du pays, mais elle sait que dans quelques mois, le bateau de ravitaillement promis par Stephenson arrivera. Elle saisira alors cette chance pour rentrer chez elle. Pourtant, l'été passe et la glace demeure. Il semble peu probable qu'un navire amarre dans ces conditions. Et en effet, personne n'arrive à la fin de l'été. À des milliers de kilomètres de là, Stephenson a manqué à sa promesse. Il n'a pas réussi à réunir les fonds pour affréter un bateau. En plus, toute cette affaire de drapeau a déclenché une enquête des autorités britanniques et disons que l'explorateur est dans le viseur de plusieurs gouvernements. Dans une dépêche londonienne de 1922, on peut notamment lire « Le gouvernement de Sa Majesté est étranger à cette expédition ». Mais pendant ce temps, en Sibérie, l'équipage est rongé par la fatigue et amaigri par le manque de vivres. Les animaux se font plus rares que l'année précédente. Dans les esprits, la peur de ne pas passer l'hiver fait frémir les corps. La situation est critique. En plus, Lord Knight est atteint du scorbut et doit rester au camp pour se reposer. L'équipage met alors au point un plan. Ada s'occupera du malade, tandis que les 3 autres prendront la route pour la Sibérie à travers la banquise pour trouver de l'aide. Mais ce sera la dernière fois que Knight et Ada verront leurs coéquipiers. Aucun n'arrivera à destination. Nous sommes en février lorsqu'un matin, Ada aperçoit Lord Knight allongé près de la tente et recouvert de neige. Elle vérifie sa respiration. Elle sait très bien que sa mort signifierait se retrouver seule dans l'immensité de cette île, sans personne avec qui partager l'horreur de cette expédition. Ouf, Knight respire encore. Mais il le sait, cette maladie qui le ronge empire chaque jour de plus en plus. Le stock de vivres diminue et il ne leur reste plus que de la graisse de phoque et des biscuits. Ada doit donc apprendre à poser des pièges et chasser avec un couteau à neige pour assurer leur survie. Elle est à la fois médecin, cuisinière, chasseuse, mais aussi bûcheronne. Sa persévérance et son dépassement ne font pourtant ni chaud ni froid à son compagnon d'infortune, que la maladie rend irascible et qui n'arrête pas de lui reprocher de mal s'occuper de lui. il lui répète notamment que le mari d'Ada a eu raison de l'abandonner. Ada se noie dans son journal. Elle écrit d'ailleurs « Il ne s'arrête jamais pour penser à la difficulté pour une femme de remplacer quatre hommes, de s'occuper du bois, de lui chasser de quoi manger, de s'occuper de son lit et de sortir la merde. » Ada parvient néanmoins à le maintenir en vie pendant 6 mois, isolée de tout. Elle va même jusqu'à dépasser sa peur des armes à feu pour se servir d'un fusil. Chaque jour, elle s'entraîne à viser et part en excursion pour apporter ce qu'elle trouve sur son chemin. Ada fait preuve de débrouillardise et d'une grande ténacité. Mais un matin de juin 1923, Knight finit par succomber à la maladie. Ada est désormais seule, les larmes aux yeux, avec pour seul compagnon le petit chat Vic. Elle s'accroche au seul espoir de revoir son fils un jour. Les jours passent. Ada s'entraîne à chasser les oiseaux et construit même une plateforme au-dessus de sa tente pour guetter les ours polaires, elle qui en a une peur bleue. Sa persévérance est toujours là. Après 3 mois de solitude et près de 2 ans sur l'île Wrangel, un navire apparaît enfin à l'horizon. Ada court jusqu'à la plage et agite les bras dans tous les sens. Une petite chaloupe vient la récupérer et lui explique qu'elle est envoyée par Stephenson pour rapatrier son équipage, qu'il pensait en pleine forme. Oui, il le pensait vraiment. Ada rentre chez elle et le dénouement tragique de cette expédition fait rapidement la une des journaux. Ada aimerait surtout qu'on la laisse tranquille. Grâce à son salaire, inférieur à ce qui lui avait été promis, elle peut néanmoins emmener son fils dans un hôpital de Seattle pour le faire soigner. Jusqu'à la fin de sa vie, Ada ne touchera rien sur les nombreux articles et livres publiés sur son épreuve. Wilhelmur Stephenson écrira lui-même l'ouvrage « The Adventure of Wrangel Island » en décrivant l'histoire d'Ada comme la plus romantique dans l'histoire de l'Arctique. Il aura réussi une nouvelle fois de plus à minimiser sa responsabilité dans l'affaire. La seule véritable héroïne de cette histoire restera ainsi dans l'ombre jusqu'à la fin de sa vie. Ada meurt en 1983 à l'âge de 85 ans, sans que personne n'ait reconnu son incroyable résilience. Alors, pour cette première chronique de l'année, je dirais que cette femme extraordinaire, en qui personne n'avait foi, s'est montrée si grande que son histoire vaut 1000 fois d'être racontée. Voilà, rien que ça. Je vous remercie à toutes et tous d'avoir écouté ces quelques minutes passées en compagnie de l'incroyable Ada Blackjack. J'espère que cela vous a plu. C'est le moment de conclure cet épisode, mais pas de tristesse car je vous donne rendez-vous dans 2 semaines sur un tout autre ton. Notre prochain portrait montre dès l'enfance des signes d'autisme qui compliquent sa relation avec le monde. Elle aura du mal à communiquer, ne supportera pas les bruits et les contacts physiques, et sera souvent incomprise. Mais au fil du temps, avec son intelligence visuelle unique et son lien profond avec les animaux, elle découvrira sa passion pour l'élevage lors d'un séjour dans un ranch. Cette expérience la conduira à révolutionner l'industrie de l'élevage et en concevant des systèmes plus humains pour le bien-être des animaux. Experte renommée, elle militera pour une meilleure compréhension de l'autisme et du bien-être animal, prouvant que ces différences sont sa plus grande force. Bref, un rendez-vous qui promet encore une rencontre passionnante. Alors en attendant de nous retrouver, restez curieuses et curieux. À bientôt sur RLP.